4 août 1985. L'orage qui s'était déchaîné toute la soirée s'était arrêté depuis une demi-heure, quand on a aperçu dans la forêt une lumière qui zigzaguait dans la nuit. J'ai regardé ma montre. Elle indiquait 3h10.
D'un même pas, les deux vigiles abandonnèrent leur poste de surveillance et se dirigèrent vers la grille de la zone de stockage. Dans leur dos, perchés au-dessus des eaux agitées du fleuve, on devinait les silhouettes gigantesques des piles d'un pont en rénovation. Par-delà la route terreuse du chantier et les champs en jachère, montait le grondement d'un moteur emballé. Pas de doute, une voiture approchait d'eux. Eux qui se trouvaient dans un cul-de-sac sans autre issue qu'un pont suspendu dont la moitié de l'armature avait été démontée la veille. Eux qui se trouvaient coincés tout contre une nervure du fleuve. Mais les deux hommes n'eurent pas le temps de discuter.
Il est sorti de la forêt, à 300 mètres de nous, pas plus. Une grosse voiture qui s'est engagée sur la route qui menait vers le chantier. Elle nous fonçait droit dessus. C'était pas normal. J'ai couru jusqu'au centre de communication.
Le centre de communication n'était en fait qu'une baraque de chantier équipée d'un talkie-walkie et de deux lignes téléphoniques pas encore raccordées au réseau. Bosquet s'y engouffra et se saisit du talkie-walkie. On avait mis en garde les deux vigiles contre les petits voleurs de dépôt qui pourraient tenter de chaparder les outils de précision ou des instruments de mesure électronique. Mais on ne leur avait jamais rien dit sur des voitures béliers surgissant du fin fond des ténèbres et menaçant de s'écraser contre eux. La voiture fonçait pourtant droit devant elle. Quelques instants encore, et elle allait heurter l'entrée. De son côté, Mornant se précipita vers l'entrepôt de matériel où il savait pouvoir trouver un fusil.
Seulement en cas d'extrême urgence et encore. Et n'en parlez pas trop.
Alors qu'il courait à travers le chantier, il n'y avait plus de doute dans son esprit à propos de cette extrême urgence. Bosquet, lui, essayait de prévenir le central.
15-17 ! 15-17 ! Ici stockage, rive gauche ! Répondez, centre de veille ! Urgence absolue ! Urgence absolue ! Un véhicule se dirige vers nous à vive allure ! Je répète, un véhicule se dirige vers nous à vive allure ! Code d'urgence 15-17 ! Vous m'entendez ? Répondez, bon Dieu !
Mais rien ne venait en réponse.
Saloperie d'orage ! Putain de bordel, quelqu'un m'entend ?
Bosquet se retourna vers le fleuve.
Quelqu'un m'entend ?
Soudain, il y eut une autre lumière dans son dos, si forte qu'il en lâcha son toki. Il tourna la tête et vit alors des phares puissants à 20 mètres de lui. Un claquement métallique s'échappa du moteur emballé alors que la voiture glissait sur le chemin de pierre et de terre. Un pneu éclata, peut-être deux. Emportée hors de la route, elle atteignit un remblai et rebondit. Le conducteur perdait le contrôle. La voiture ripa contre la clôture de sécurité et l'arracha dans toute sa longueur. Elle heurta deux énormes bobines de câbles avant de s'immobiliser au centre du terrain de stockage. Une portière s'ouvrit et un homme sortit de la voiture en rampant. Dans le cabanon, dans une caisse scellée qu'il ouvrit d'un coup de pied, Mornant trouva le fusil. Il le chargea, fit sauter le cran de sûreté et courut hors du baraquement. Le conducteur de la voiture se précipitait vers lui en remuant les bras comme un fou. La réalité disparaissait petit à petit des yeux de Mornant. Pour la première fois de sa vie, il avait assez peur pour tuer. Il levait déjà le canon de l'arme et se préparait à faire feu. Mais la réalité revint et Mornant retint son doigt sur la détente. Car il connaissait l'homme qui se ruait sur lui comme un fauve blessé. C'était un des ingénieurs du chantier.
Monsieur Donnell ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qui se passe ?
À peine l'arme fut-elle baissée que Donnell saisit les bras de Mornant. Ses yeux étaient si grands ouverts que Mornant n'osa pas le regarder en face.
Appelez tout de suite au secours ! Il faut les envoyer dans les bois, tout de suite ! Vous ne comprenez pas ! Tout de suite !
Mais qu'est-ce qu'il y a dans les bois ? Un accident ?
Ils pourrissent tous, vous comprenez ? Oh ! Appelez les secours ! Au sud de la patois, vers les collines, près des ruines !
Bosquet les avait rejoints. Il empêcha Donnell de tomber et le retint contre lui avec maladresse. L'ingénieur le fixa un instant hagard.
Vous avez une voiture ?
Le 4x4.
Prenez des lampes, des extincteurs et des couvertures. Et puis des bandages aussi. Des bandages pour leurs mains. Mais faites attention à lui. Faites très attention à lui. N'y entrez surtout pas s'il n'est pas parti. Il va vouloir vous prendre comme pour moi.
Emporté par son délire, Donnell tomba à genoux, ne respirant qu'avec peine. Bosquet accompagna sa chute et remarqua pour la première fois l'étrange marque qui courait sur la nuque de l'ingénieur. Une ligne fine, infectée comme mouvante. Une marque de fer rouge, longue comme une main. Donnell s'effondra sur le sol, le corps tremblant. Les deux employés l'adossèrent avec difficulté contre un caisson de bois et Mornant courut chercher une couverture. L'ingénieur perdait ses forces. Il tremblait sans contrôle et du sang lui coulait des oreilles et des yeux. Sa vie le quittait à une vitesse prodigieuse sous les regards impuissants de Bosquet. Alors qu'il revenait vers eux, Mornant se retourna soudain.
Ici centre de veille rive droite, vous m'entendez? Ici centre de veille rive droite.
Le vigile lança la couverture à Bosquet et se précipita vers le Toki.
Ici Mornant, envoyez du secours dans la forêt, au sud de la Patte d'Oie, à un endroit où il y a des ruines. Il y a eu un accident, des blessés graves. Il y a un incendie ou quelque chose. C'est Monsieur Donnel qui a donné l'alerte. Il perd beaucoup de sang. Il nous faut l'équipe médicale. Et il faut prévenir les pompiers et le SAMU.
Et ça va prendre du temps pour la rive gauche. Les bacs fonctionnent pas la nuit et...
Arrêtez vos conneries! Donnel est en train de crever! Où je trouve du secours de notre côté du fleuve?
10 km à l'ouest. Ou bien faites du porte-à-porte, je sais pas. On va rapatrier un canot de l'amont.
Ok. En attendant, je vais dans la forêt. Bougez-vous!
De l'autre côté de l'eau, on donnait l'alerte. Il se précipita vers Bosquet.
Occupe-toi de Donnel! Je vais dans les bois!
Bosquet confirma sèchement de la tête, les yeux rivés sur Donnel allongé au sol. Les paroles de Mornant restèrent en suspens. Ce qu'il voyait faillit le faire vomir. À terre, Donnel tremblait de toutes ses forces, le visage ruisselant de sang. Le mal s'était répandu en lui avec une rapidité inconcevable.
Non, il faut partir. Il va me voir. Il mourra. Non, je dois y arriver. Il faut pas qu'il me touche. Il faut pas qu'il me touche.
Mornant recula et entra dans un baraquement. Il tourna un interrupteur et une lumière blafarde inonda les ténèbres du préfabriqué. Il saisit une lampe, toutes les trousses de soins qu'il trouva, des couvertures et un extincteur. Il courut ensuite au 4x4 en prenant garde de ne pas se retourner vers Donnel. Il lança le matériel à l'arrière du véhicule, posa le fusil à côté de lui et démarra, franchit le grillage et s'engagea dans la forêt. Bosquet avait mis des pansements sur le visage de Donnel. Contre toute logique, la blessure de sa nuque s'ouvrait continuellement et la plaie grandissait maintenant en tous sens, meurtrissant jusqu'à ses joues. Elle grossissait si vite que Donnel n'aurait bientôt plus qu'une corde de chair autour du cou. Bosquet avait peur.
Parlez-moi, Donnel, parlez-moi. Concentrez-vous sur moi. Les secours vont arriver.
Ils brûlent. Tous. Je traversais la forêt pour venir ici. Contrôler le matériel. À cause de l'orage. J'ai vu des lumières et une forme qui rampait. C'était une femme. Elle mourait. Elle brûlait comme les autres près des ruines. Leurs mains étaient comme... mordues. Mais il faut se méfier de lui. Il observe.
La plaie de son cou s'était transformée en une large déchirure. Un être invisible semblait se délecter de ses chairs. Bosquet sut que les secours arriveraient trop tard.
Prenez votre temps, Donnel. Respirez bien. Une ambulance va venir. De qui doit-on se méfier, hein? Qui vous a fait ça?
Ils sont tous morts. Ils brûlaient. Pas les vieilles pierres. J'ai mal. J'ai vu quelque chose dans les murs. C'était grand. C'était comme... Je peux plus respirer. J'ai mis mon ses yeux. J'ai mis ses yeux.
Tout le menton de Donnel était à présent à vif. Du sang ruisselait sur les mains de Bosquet.
Respirez, Donnel. Accrochez-vous. Qui avez-vous vu, Donnel? Donnel!
Il a voulu prendre. Il m'a juste effleuré. Juste touché.
Donnel, qui vous a touché, Donnel? Donnel!
Il me mange.
Les mains sanglantes, Bosquet posa la tête de Donnel sur le sol. Il était mort, mais pas l'immonde plaie de son cou qui grandissait encore tout le long de ses joues. Bosquet se leva et remonta la couverture sur le visage tordu du mort. Il souffla lentement et tenta d'oublier un moment ce qui venait de se passer. Il avait pensé pouvoir se calmer en cachant le visage de Donnel, mais sa terreur faillit le faire tomber. Il finit par se diriger vers le robinet d'une citerne à quelques pas et se lava les mains et les joues. Le sang qui partait avec l'eau semblait empesé et alourdi par des petites masses collantes. Alors qu'il s'apprêtait à refermer le robinet, Bosquet resta stupéfait. Un coup de feu. Son cœur battait trop fort. Il se repassa de l'eau froide sur le visage, se forçant à réfléchir.